Salutations à nos vieux chats, on se retrouve pour un nouveau podcast du groupe communication de Saussure. Voici les conseils de vieux chats. Donc pour le concept, cette première série de podcasts sera dédiée au travail de maturité. En général, on ne sait jamais exactement comment s'y prendre pour choisir le sujet, définir notre méthodologie ou même gérer notre temps. Oui, parce qu'on est beaucoup à finir la veille du jour de la reddition. Donc l'idée, c'est de demander à ceux qui sont déjà passés par là quelles sont les erreurs à ne pas faire ou au contraire, les choses qu'on devrait absolument reproduire. Donc, commençons d'abord par la présentation de nos deux jeunes courageux, quatrième, qui ont généreusement accepté de vous offrir leurs conseils. Cher quatrième, c'est à vous. Dites-nous qui vous êtes et brièvement en quoi consistait votre travail de maturité.
Alors, bonjour, je m'appelle Marcel Cura. J'ai fait avec mon camarade Benoît Vizard un travail de maturité. On a fait un film sur une région. Et donc voilà, de par une passion commune, on a lancé ce projet.
Bonjour, du coup je m'appelle Benoît Vizard, je suis en quatrième aussi, logiquement. On est les deux donc en OS Musique, et voilà, tout se passe bien.
Ok, est-ce qu'on pourrait avoir un petit résumé du film, de quoi ça parlait?
Alors notre film était sur une région de montagne, sur un petit village qui s'appelle Lide en Valais. Notre film, il parlait de comment est-ce que... Il essayait d'expliquer comment est-ce que cette région se débrouille pour survivre économiquement, pour tourner en fait tout au long de l'année, alors qu'il y a des autres stations beaucoup plus grosses comme Verbier à côté par exemple. Mmh. Et voilà, il décrit un peu autour de quels axes la vie se crée dans ce village, si on veut, et, avec des intervenants de là-bas qui nous expliquaient plusieurs choses.
Ok. Donc, dites-nous d'abord, qu'est-ce qui vous a inspiré ce travail? Donc, comment vous en avez eu l'idée? Comment avez-vous réussi à trouver le sujet et surtout à formuler votre problématique fameux? Et bien sûr, pourquoi avoir choisi un travail en tandem plutôt qu'un travail en solitaire?
Alors, premièrement, pour l'idée, pour le début du travail, on avait tous les deux une passion commune qui était la vidéo, l'audiovisuel de manière générale, mais également la montagne. Et donc, on s'est dit qu'on voulait faire un projet autour de ces deux, qui réunissait finalement ces deux milieux-là. Et c'est pour cela qu'on est parti sur la réalisation d'un film, voilà, sur une région montagneuse.
Et du coup, pourquoi avoir fait à deux? Parce que c'est simplement parce que c'était une passion commune ou parce que c'était plus facile à deux ou...
Alors au-delà du fait que c'était une passion commune, le cinéma et la vidéo, ça demande beaucoup de compétences très diverses. Mmh. On peut avoir l'image, le son, le montage, l'écriture... Il y a énormément de domaines et souvent ça se fait avec des grandes équipes quand on voit des grands films ou des choses comme ça. Mmh. Et donc là, ça nous permettait de mieux nous répartir nos tâches et d'avoir, de pouvoir se spécifier un peu chacun dans des tâches différentes.
Ok. Donc maintenant, on va passer à la méthodologie. Donc quelle a été votre méthode de travail? Autrement dit, qu'est-ce qui a bien ou pas du tout, voire moyennement bien fonctionné dans votre manière de travailler?
Alors je pense que premièrement, on s'est lancé dans un projet qui était dans un domaine auquel on avait des liens, mais on n'a pas vraiment eu d'expérience avant ça, mm-hmm. pour la réalisation d'un film. Et donc, notre méthode était un peu d'y aller à l'improviste, un peu à tâtons, pour finalement découvrir les différents pôles de ce domaine-là. Mm-hmm. Le faire de tourner des plans, des tours des interviews, capturer du son... et ensuite faire de la post-production. Et donc je pense qu'on avait une image en tête qui en fait a constamment évolué tout au long du projet. Okay. et voilà.
Donc si j'essaie de retenir l'essentiel de ce que tu as dit, il y a la question de la flexibilité. Faut pas avoir une idée extrêmement fixe en tête. Il faut être à même de pouvoir évoluer, de pouvoir changer au cours du temps.
Alors si je peux répondre, oui, oui et non, parce que plus tu as une idée précise en tête, mieux c'est, mais il faut avoir l'occasion de la tester et de voir si ton idée tient la route. Nous, on avait le problème du fait que du coup, la région est en Valais. Donc, pour s'y rendre et pour tourner des plans, pour avoir du contact avec les gens qu'on voulait interviewer, ça demandait de l'organisation et surtout, on pouvait pas y aller n'importe quand. Donc, nos idées, on avait un peu du mal à les tester vraiment. Si on se faisait une idée très fixe, on n'avait pas vraiment le temps d'essayer chaque idée qu'on avait et de se louper autant de fois, peut-être. Et du coup, on a construit la chose très progressivement, peut-être aussi par manque de méthodologie, bêtement, parce qu'on ne savait pas, comme il disait, on n'avait pas d'expérience, on ne savait pas exactement dans quoi on se lançait. Pour donner un exemple, on a tout de suite voulu tourner des plans et avoir du contenu, mais on s'est très peu posé la question de comment est-ce qu'on voulait écrire notre film, de l'histoire qu'on voulait raconter dedans. Et donc, on s'est retrouvé avec beaucoup de plans, mais peu vraiment de fil rouge qu'on voulait suivre. Et c'était un peu le problème aussi, c'est pour ça qu'on y allait à tâtons beaucoup. Okay. Donc c'est pas, je dirais que c'était pas forcément complètement contrôlé, cette méthode d'y aller,
okay. D'y donc, aller comme ça. Donc chez vous, c'était une méthodologie que vous avez découvert vous-même au fur et à mesure. Mais c'est pas ce que vous conseillerez forcément à ceux qui voudraient faire le même type de projet.
Je pense que ce projet part d'une assez grande ambition finalement, qui est de découvrir un domaine abracadabrant. Et donc voilà. Je pense que il faut se lancer, même dans les choses qu'on connaît pas forcément, quitte à avancer à tâtons, comme on l'a fait.
Ok. Voilà. Bon, vos réponses précédentes ont déjà un peu répondu à cette question, mais du coup, donc il y a toute l'histoire de découvrir un nouveau monde que vous ne connaissez pas. Il y a le matériel, comment vous l'êtes fourni. Est-ce qu'il y avait eu des coûts tout au long de votre travail? Est-ce que vous avez eu besoin de personnes ressources juste tout bêtement pour vous dire comment ça marche, tout ça? Enfin, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées spécifiquement liées à ce nouveau monde que vous avez découvert?
Alors, au niveau du matériel, on avait la chance d'en avoir déjà pas mal, nous, parce que les deux, on faisait de la photo, donc on avait déjà de quoi filmer. On fait de la musique aussi, donc on avait de quoi enregistrer, ce genre de choses. Maintenant, on avait aussi la chance d'avoir un ami qui est dans le public qui nous a prêté un drone. Il faut aussi forcément faire jouer de ses contacts un peu dans ce monde-là. Et voilà, donc ça, c'était pas forcément un frein, mais il faut y penser à l'avance et se dire que si on n'a pas tout ce matériel, on n'est pas obligé d'avoir le meilleur matériel à la pointe de la technologie et tout ça. Le plus important, je pense qu'on peut y venir du coup, et d'après notre expérience, le plus important, c'est pas forcément le matériel, mais c'est d'avoir une idée qu'on veut justement tester et d'avoir une idée précise de ce qu'on veut faire, même si elle va beaucoup changer par la suite. Il faut essayer de se donner une idée, un point de départ et un point d'arrivée si on veut, même s'il change au cours du travail.
Ça marche. Donc ensuite, que conseillerez-vous à ceux qui, à l'avenir, comme vous, préféreront un TM à deux au lieu du TM solo classique? comment faire pour concilier deux esprits peut-être ou sûrement divergents? Quels sont les avantages ou désavantages d'un travail de maturité en tandem?
Alors moi, je pense que déjà, premièrement, il faut faire, si on veut se lancer dans un projet comme ça à deux, il faut être avec quelqu'un avec qui on a de l'affinité et avec qui on sait que ça peut bien se passer. On peut passer de nombreuses heures de travail à travailler sans forcément finir sur les rotules. Maintenant, je pense que en tout cas pour nous, ça a été très enrichissant. Ça a été un grand travail sur nous, le fait de travailler à deux, de par être confronté à quelqu'un pendant une semaine, deux semaines, non-stop sur un projet. Et je pense que on a eu des moments compliqués, on a eu des moments down. mais je pense que ça a été très enrichissant, le fait de faire un projet à deux.
Ok.
Ouais, je pense qu'il faut savoir avant de faire un projet à deux que ce sera jamais tout facile ou tout pas facile. C'est un peu logique ce que je dis, mais je pense que c'est la même chose quand on est tout seul aussi. On a aussi des moments où on aimerait bien avoir quelqu'un qui puisse nous aider, nous épauler, avoir un regard sur ce qu'on fait. Et je dirais pas que c'est moins bien ou mieux qu'un autre projet, c'est vraiment les deux se valent et les deux sont faisables. Il faut pas voir un ou l'autre comme étant impossible parce qu'on va pas s'entendre avec quelqu'un. Justement, c'est un vrai plus qu'on retient de ce travail, c'est ce travail de remise en question de ce qu'on a fait.
Ok, connivence. Donc, le choix du partenaire est important. Est-ce que le choix du sujet est aussi important? Est-ce que, par exemple, si vous deux, vous aviez travaillé ensemble sur un autre sujet, ça aurait pu se passer différemment?
Alors, comme je l'ai énoncé précédemment, moi, je pense, enfin, on est parti sur ce sujet-là de par notre nos milieux de prédilection. Maintenant, je pense que ça, le sujet, c'est ce qui, c'est le point de départ de tout, c'est le cœur du projet. Et je pense que c'est le finalement ce qui est le plus important au début d'un projet. Je pense qu'il faut déjà se projeter, se rendre compte de ce qu'on veut et ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut créer. Et je pense que c'est très important le choix du sujet. Il peut évoluer, comme on l'a dit précédemment. Mais je pense que ça reste le cœur du projet.
Ok. Donc, maintenant, quels ont été vos repères temporels ou quels sont ceux que vous auriez aimé avoir pour mieux gérer votre temps? Comment vaincre la malédiction des plans qu'on ne respecte jamais?
Alors nous, comme on l'a dit plus tôt, on devait s'organiser pour monter en Valais, donc pour passer de Genève à Lille. Et donc, ça nous a forcé à s'organiser, à bloquer des semaines à l'avance pour faire ce genre de choses. Donc c'est un peu un plus dans ce sens-là, peut-être, parce qu'on devait s'y tenir. Maintenant...
l'idée d'un cadre extérieur peut être utile pour mieux gérer votre temps. Donc c'est une entité extérieure qui vous impose votre gestion du temps.
Ça peut être utile, je pense, si on a trop peur de pas savoir gérer ça, justement, d'essayer de se fixer le plus tôt possible certaines échéances et puis qui peuvent être justement en lien avec des personnes qu'on veut interviewer ou des choses comme ça. Comme ça nous force un peu. On a la responsabilité d'aller à ces entretiens et puis de s'y tenir, donc ça peut être pas mal. Après, voilà, c'est sûr qu'il faut se forcer de temps en temps. Ça, je pense que tout le monde le sait.
Bien sûr. Donc là, ça me permet de faire un lien avec ma question suivante. C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que ce cadre extérieur peut être amené par le maître accompagnant, par exemple ?
Alors, dans notre cas, je pense que de manière générale, oui, dans une certaine mesure. Maintenant, dans notre cas, je pense qu'on a été, qu'on a pris les choses en main assez rapidement en termes d'organisation, parce que on était conscient dès le début, finalement, des problèmes qu'on aurait liés justement, typiquement à la disposition géographique. Maintenant, je pense que oui, ça peut aider. Et c'est d'ailleurs le but, je pense, de ce TM et le but du maître accompagnant, qui est d'accompagner finalement dans l'organisation du TM les élèves.
Donc, vous pensez qu'on doit choisir notre maître accompagnant en fonction de sa capacité à nous aider à nous organiser, ou en fonction de ses affinités avec notre sujet, ou même en fonction de notre propre affinité avec le maître?
C'est assez dur à dire. En tout cas, c'est assez dur à s'en rendre compte avant le TM de savoir qui on doit choisir, effectivement. Je pense que si la personne, si le maître accompagnant peut être motivé par ce qui vous intéresse, peut avoir déjà quelques connaissances dessus aussi, ça peut être très utile pour, vous éviter des erreurs de base. Par exemple, justement, le fait de ne pas s'être lancé assez tôt dans l'écriture d'un scénario, dans l'écriture d'une structure complète de notre film, je pense que c'est une erreur assez commune que beaucoup de gens font quand ils se lancent là-dedans, et qui aurait pu être évitée par si on avait eu des conseils un peu plus tôt là-dessus. Donc ça peut être utile d'avoir quelqu'un qui connaît un peu le sujet.
Ok. Maintenant, la soutenance, la fameuse, comment vous l'avez envisagée? Comment vous y êtes préparé? Est-ce que vous étiez plutôt détendu, tendu, ou enfin, qu'avez-vous fait comme préparation pour la soutenance? Et puis surtout, au final, qu'est-ce que vous avez fait pour la soutenance?
Alors, je pense qu'on a passé énormément de temps pendant le projet à devoir construire finalement ce qu'on voulait dire, comment on voulait le dire. Et finalement, on a passé énormément de temps à étudier finalement le projet, le sujet. Et donc, je pense que pour la soutenance, on y allait en étant très très sûr de nous, de par le fait qu'à travers et le dossier et le projet, on avait déjà étudié notre sujet de fond en comble. Et ouais, je pense que du coup, on y allait tranquillement, et je pense que ça s'est bien passé.
Ok. Donc, au niveau du contenu de la soutenance, est-ce que vous direz que... J'entends souvent que l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas résumer son TM à la soutenance. Donc du coup, vous direz qu'il faut faire quoi pour une soutenance?
Ben bon, c'est facile à dire, mais je pense qu'il faut redonner tous les points importants pour quelqu'un qui n'aurait aucun lien avec votre travail, de pouvoir lui expliquer en gros tout ce qui s'est passé. Donc il faut faire un tri, il faut se dire qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut pas dire, est-ce qu'il y a des détails finalement peut-être que tout le monde s'en fiche, mm-hmm. on peut les mettre de côté. Donc je pense que résumer le TM, oui, c'est une bonne idée quand même, parce que ça peut permettre de mettre un cadre, de montrer aussi aux profs comment est-ce qu'on a abordé la chose, parce que rien qu'avoir un résumé de la part de ceux qui l'ont fait, ça montre leur point de vue, leur point d'attaque. Si mm-hmm. on veut. Donc ça peut être très utile, bien sûr.
Ok, donc quand même un petit résumé biaisé.
Oui, et puis je pense qu'il y a un point que je peux rajouter, c'est de parler de, enfin de vraiment être critique vis-à-vis mm-hmm. du travail. Et ça, je pense que c'est pas forcément que dans la soutenance, mais de manière générale, dans un travail comme ça, il faut être critique, il faut être prêt à encaisser évidemment les critiques aussi extérieures. Et je pense que c'est aussi le rôle de la soutenance directement, le fait de justement pouvoir dire qu'est-ce qu'on a fait faux, qu'est-ce mm-hmm. qu'on aurait pu faire mieux, et surtout, ouais, qu'est-ce qui... Bah justement, Benoît disait, si quelqu'un qui n'a pas accès au projet écoute la soutenance, il devrait pouvoir se retrouver. Bah, je pense que c'est ça, c'est aussi dire à des gens extérieurs, ok, si vous faites un projet comme ça, nous, ce qui nous a pesé, ce qui nous est arrivé, c'est ça, ça, ça. Et je pense que l'aspect critique est très, très important.
Donc, l'idée d'une rétrospection.
Exactement.
Ok.
Oui, oui, oui. Oui.
Donc, pour finir, si vous deviez recommencer... Même si pour beaucoup, c'est pas forcément quelque chose qui les tente, mais imaginons que vous deviez recommencer. Qu'auriez-vous gardé, rejeté, changé de votre méthodologie de travail ? Quel serait votre top 3 des choses à faire ou à ne pas faire lors d'un travail de maturité ?
Ouais, moi, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à, bah, comme je le disais plus tôt, en fait, à se lancer et à essayer des choses. Nous, peut-être qu'on avait trop. On avait une idée en tête de base. Et on s'est dit jusqu'à assez loin dans le travail qu'on voulait suivre cette idée et que ça allait être très bien, mmh. mais on s'est bien sûr rendu compte au bout d'un moment qu'il fallait changer certaines choses, adapter, parce qu'on n'est pas, Alfred Hitchcock.
Ah bon?
Et du coup c'était, bah non, effectivement, et on savait qu'on n'allait pas faire un film incroyable, même si on en avait un peu l'espoir au début, dans le sens incroyable, au sens de
après,
d'Alfred
il est incroyable,
Hitchcock. Oui, oui,
certes. Je quitte le plateau,
bien sûr. Et donc, voilà, essayez beaucoup ces idées en sachant qu'on va pas faire quelque chose d'exceptionnel, c'est pas grave en fait. Le but, c'est justement, comme il disait, cette autocritique à la fin, mm-hmm. De retenir quelque chose du travail. Le travail en lui-même va pas forcément devenir le numéro 1 de toutes les, je sais pas, de tous les festivals de films ou comme ça, mm-hmm. mais c'est ce qu'on va en retenir qui sera intéressant pour nous, pour la
donc,
suite.
Donc, ne pas être frustré si on n'est pas appelé au box-office après.
Non, et puis c'est un apprentissage en tous les cas.
Ok. Ben, ça tombe bien que tu parles d'apprentissage. Donc du coup, ma question suivante, c'est des petites questions bonus, mais la première qui arrive, c'est quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir vous-même au moment de débuter votre TM ?
Je pense être sûr de nous et d'être sûr de nos capacités, dans le sens où je pense que si on nous avait dit... faut pas vous lancer dans ce projet et douter. Enfin, je pense que vraiment, quand on s'est lancé dans ce projet, pendant longtemps, on s'est dit, mais est-ce qu'on y arrivera ? Est-ce qu'on arrivera à créer quelque chose de bien, quelque chose qui va nous plaire ?
Mm-hmm.
Et je pense que si quelqu'un nous avait dit dès le début, et d'ailleurs c'est le cas à part ça, on mm-hmm. a eu des remarques comme ça, qui nous ont dit, écoutez les gars, vous êtes lancés là-dedans, maintenant il faut aller jusqu'au bout et vous allez y arriver. Et je pense que c'est ça qui nous a drive, quoi.
Ok. Donc l'importance de la confiance en soi et puis d'essayer d'obtenir un travail qui nous plaise à nous avant tout à la fin.
Puis si je peux rajouter aussi, ne pas se prendre trop au sérieux, peut-être bêtement, mmh. Voilà, y aller en essayant de se faire plaisir aussi, de voir ce qu'il y a de sympa dans ce travail, parce que c'est quand même quelque chose qui, justement, on le disait, nous, ça part de nos passions à la base.
On n'est pas pro.
Mmh. Pas du tout. et de voir ce qui peut être chouette aussi pour nous au moment de faire le travail, quoi, de pas s'enfermer dans quelque chose qui nous empêche de prendre du plaisir et puis de pas avancer.
C'est beaucoup du plaisir, de plaisir. Ce projet, oui.
Mmh.
Ok. Donc une autre petite question. Est-ce que vous êtes réellement devenu plus mature après ce travail de maturité ? Donc pour Marcel, je sais, ça a échoué, c'est toujours un grand enfant. Mais du coup, Benoît,
ça c'est limite, on est à la radio quand même.
Alors faut pas hésiter.
C'était une plaisanterie, Marcel. C'était une plaisanterie.
Moi, ça m'a pas vexé, premièrement. Voilà. deuxièmement, je me permets de prendre la parole. Enfin, je pense que oui. Je pense sincèrement que oui, ça nous a rendu plus matures. Enfin, c'est très large.
Plus mature au sens d'avoir plus d'expérience ou vraiment plus mature dans ce qu'on entend en général quand on parle de maturité,
je pense
genre grandir.
Plus mature en tout cas dans le domaine du travail. Pourquoi ? Je m'explique. Parce que je pense que le fait de gérer un projet d'une telle envergure, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu accès avant le travail de maturité. Et donc je pense que pour ça, ça a été super enrichissant de devoir nous débrouiller sur un projet qui nous a pris des dizaines et des centaines d'heures.
Mmh. Et il y a aussi le fait d'avoir travaillé à deux. Je pense que ça nous a beaucoup fait avancer. D'une part dans notre relation personnelle, mais aussi dans le fait de... Maintenant, je pense qu'on sait mieux se rendre compte de quand est-ce qu'on a raison et de quand est-ce qu'on n'a pas raison, en fait. Parce qu'après, les discussions qu'on a pu avoir, ça nous montre que des fois, on est très sûr de nous, mais qu'on n'a quand même pas la meilleure des idées. Mmh. Et savoir prendre ce recul-là, je pense que c'est quelque chose qu'on a... Je dirais pas qu'on l'a acquis, mais qu'on a amélioré chacun de notre côté.
Donc une capacité de recul sur soi et une plus grande expérience pour ce genre de travaux.
Ça me semble parfaitement résumé.
Ok, donc dernière question du coup. Si on vous disait là, demain tout de suite, de recommencer d'autres travaux d'envergure de ce genre, vous vous sentiriez d'attaque du coup ?
Instantanément.
Ok.
Ah oui.
Je prendrais mes clics et mes claques et...
Parfait.
Je me lancerai dedans.
Ok, du coup, je remercie beaucoup Marcel et Benoît qui ont généreusement accepté de nous offrir leurs conseils. Et je présume que les troisièmes vous remercieront aussi quand ils écouteront ce podcast.
Et donc, j'espère qu'on aura été utile. Voilà,
bonne chance à eux avant tout.
Bonne chance à eux.
Bonne chance à eux. Hein.
Et prenez du plaisir.
Au revoir.
Au revoir.